Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous. Est-ce l'histoire qui est rythmée par la musique ou est-ce la musique qui rythme l'histoire? La question mérite d'être posée. C'est le tempo de l'histoire. Janvier. Le Conseil du roi est recomposé et comprend désormais le Conseil des affaires et des dépêches et le Conseil de direction ou des finances. Le 29 janvier 1630, c'est la rencontre à Lyon de Jules Mazarin, envoyé par le Saint-Siège pour négocier un armistice, et de Richelieu. Le 6 février, la peste est signalée à Rodez. L'armée française, toujours en février, passe le Mont-Cenis et envahit l'Italie. C'est la révolte du Lanturlu, menée par le vigneron Antoine Changenet à Dijon contre le projet de transformer la Bourgogne en pays d'élection. Le 22 mars, la prise de Pignerolles, clé de la plaine du Pô et de la citadelle, le 30 mars 1630, marque un tournant important dans l'histoire de la monarchie. Louis XIII refuse de le rendre à l'Espagne, choisissant la guerre contre les Habsbourg le 26 avril. En avril toujours, l'édit de Troyes rassemble Clermont et Montferrand pour former Clermont-Ferrand. En mai, c'est le début d'une expédition française à partir du Dauphiné en Savoie et en Piémont. Chambéry est prise le 17 mai. En septembre 1630, Louis XIII est à l'article de la mort. Il guérit de manière inespérée, ce qui sauve Richelieu de la disgrâce. En octobre, les maréchaux de Schönberg, de la Force et de Marillac arrivent devant Casals, assiégés par le marquis de Santa Croce, successeur de Spinola. La médiation de l'envoyé du pape, Urbain VIII, Mazarin, met fin aux hostilités et permet la levée du siège. Au même moment, la peste fait des ravages dans la région. Afin d'éviter une contagion, Louis XIII quitte Mantoue pour rejoindre Lyon, où Marie de Médicis cherche à obtenir le renvoi de Richelieu. Le roi, qui souffre des dents depuis plusieurs mois déjà, arrive à Lyon le 7 septembre, mais il est pris peu après d'une dysenterie sanglante accompagnée de fortes fièvres. À l'armée, Richelieu, qui a pris le commandement de l'armée du Piémont, rejoint alors Lyon. Ce qu'on a appelé la maladie de Lyon dure environ 40 jours et fait craindre pour la vie de Louis XIII, à tel point que l'extrême onction lui est administrée le jour de son anniversaire, le 27 septembre 1630. Mais contre toute attente, le roi de France recouvre la santé. Peu après la guérison miraculeuse de Louis XIII, ses troupes parviennent à reprendre Mantoue et la reine-mère presse le roi de destituer le cardinal de Richelieu. Marie de Médicis tient tous les jours des conseils pour décider de quelle façon traiter Richelieu, que tous rendent responsable des tensions en Europe et même de la maladie du roi. Gaston d'Orléans pensa ceindre bientôt la couronne. Quant au cardinal, le duc Henri II de Montmorency lui offre asile dans son fief du Languedoc si le roi vient à mourir. Homme d'État avant tout, Louis XIII fait tout de même une réponse dilatoire à sa mère, qui rentre alors à Paris, où la cour itinérante doit passer l'hiver. Le roi revient à Paris le 19 octobre et reçoit peu après sa mère, qui lui déclare que, quels que soient les griefs qu'elle ait de l'ingratitude du cardinal de Richelieu, elle reconnaît sa valeur et ne fera plus de difficultés. Cette déclaration est reçue par Louis XIII avec joie, puisqu'elle le délivre de l'odieuse nécessité de choisir entre sa mère et son ministre. Le roi réunit un conseil restreint chez la reine-mère au palais du Luxembourg, situé à côté du petit Luxembourg que Marie de Médicis a donné au cardinal de Richelieu en 1627. Y siègent, outre Louis XIII et Marie de Médicis, Michel de Marillac et Richelieu. Or, les succès remportés par ce dernier au cours de la décennie passée, tant dans les négociations que dans les affrontements, ont transformé la méfiance de Louis XIII à l'égard de Richelieu en estime pour le cardinal. Il décide donc de le garder à ses côtés et fait connaître ses résolutions à sa mère en lui assurant qu'il aura toujours pour elle le respect qu'il lui doit. Cette nouvelle fait entrer Marie de Médicis dans une profonde colère et elle laisse alors libre cours à sa haine envers le cardinal. C'est alors que la nièce de Richelieu, Madame de Combalet, sa dame d'Atours, se présente. La reine-mère, en la voyant, oublie la parole qu'elle avait donnée au roi quant à son acceptation du cardinal et se met à l'accabler d'injures et de reproches, si bien que Madame de Combalet sort en larmes. Le cardinal n'est pas mieux traité que sa nièce. Marie de Médicis lui retire la surintendance de la maison de la reine et son titre d'aumônier de la reine. Elle chasse de leurs fonctions son cousin Germain, Charles de la Porte, capitaine de ses gardes, et ne veut plus voir Claude Boutillier, secrétaire d'État, parce qu'il lui a été détaché par Richelieu. Louis XIII, outré par la scène, aurait quitté le palais sans un mot ni un regard au cardinal de Richelieu, qui se croit perdu et se prépare à se retirer à Brouage, dont il est le gouverneur. De retour rue de Tournon, à l'hôtel des ambassadeurs, le roi consulte Saint-Simon, son favori, qui lui parle fortement en faveur du cardinal. Louis XIII, étant résolu d'aller ce jour-là au château de Versailles, charge Saint-Simon d'envoyer dire au cardinal de s'y trouver. « Monsieur le cardinal a un bon maître, allez lui dire que je me recommande à lui et que sans délai, il vienne à Versailles. » Louis XIII rentre à Paris. Pour contenir la colère de sa mère, il fait dire au cardinal de Richelieu de se retirer pour quelques jours à Pontoise. Le roi ordonne l'arrestation de Michel de Marillac, emprisonné au château de Châteaudun jusqu'à sa mort en 1632, ainsi que celle de son frère, le maréchal Louis de Marillac, nommé la veille à la tête de l'armée d'Italie et exécuté pour haute trahison en 1632. Marie de Médicis, d'abord stupéfaite face à ce retournement de situation si brusque, refuse toutes les tentatives d'apaisement. Elle se voit recluse dans ses appartements, puis exilée à Compiègne en février 1631. Elle s'en échappe le 18 juillet suivant pour gagner les Pays-Bas espagnols. Cette évasion n'est en réalité qu'un piège politique tendu par son fils qui a auparavant retiré les régiments gardant le château de Compiègne. Réfugiée auprès des ennemis espagnols de la France, Marie de Médicis est à jamais privée de son influence et meurt en exil le 3 juillet 1642. Antonio Sartorio, qui a surtout composé des opéras et de la musique vocale, exerce principalement son activité dans sa ville natale de Venise et à Hambourg. On connaît peu de choses sur sa vie et sa formation. Giamori Infruttuosi di Piro, son premier opéra, connaît sa première le 4 janvier 1661 à La Fenice. De 1666 à 1675, il est maître de la chapelle du duc Jean-Frédéric de Brunswick-Lunebourg. Il compose pour ses musiciens une missa brevi ainsi que des psaumes et des cantates qui n'ont été en partie redécouverts qu'en 1958 dans le soufflet d'un orgue du village de Uppède. En dépit de la charge imposante qui lui échoit à Hanovre, il trouve le moyen de se rendre plus d'une fois dans sa ville natale. Ainsi, lors du carnaval de Venise, en 1670, il fait jouer son deuxième opéra, L'Ermengarda Regina des Longobardi. Quelques années plus tard, le 19 février 1672, il est de retour pour jouir du succès remporté par l'Adélaïde, son opéra le plus connu. Prétextant son mauvais état de santé et la commande de deux nouveaux opéras, il demande de reporter son retour en Allemagne. Le duc consent à une prolongation du séjour de Sartorio. Le 14 décembre 1672 a lieu la première de l'Orfeo, une variation du mythe d'Orphée et Eurydice, où sont ajoutés intermèdes comiques et intrigues échevelées, mettant en scène des personnages aussi incongrus qu'Hercule, Achille et Thétis. Après deux années de service en Allemagne, Sartorio est démis de sa charge en avril 1675. Il rentre à Venise, où il occupe le poste de vice-maître de chapelle de la basilique Saint-Marc à partir du 7 mai 1676 jusqu'à sa mort. Pour le chœur de la basilique, il compose notamment des psaumes à 8 voix et pour les théâtres, au moins 4 opéras. Les œuvres d'Antonio Sartorio présentent des caractères typiquement vénitiens de la seconde moitié du XVIIe siècle. Plus précisément, ses livrets appartiennent à la catégorie du drame héroïque, pleine d'intrigues, de déguisements, d'astuces et de sorts. Voici « Quando Voglio con un vezzo » de Sartorio, une musique de sa composition. Armand Jean Duplessis de Richelieu, dit le cardinal de Richelieu, né le 9 septembre 1585 à Paris. Il décède le 4 décembre 1642 dans cette même ville. Il est un ecclésiastique et homme d'État français, cardinal en 1622, duc de Richelieu en 1631, duc de Fronsac en 1634 et pair de France. Il fut le principal ministre du roi Louis XIII. Initialement destiné au métier des armes, il est contraint d'entrer dans les ordres afin de conserver à sa famille le bénéfice de l'évêché de Luçon. Temporairement ministre des Affaires étrangères en 1616, il est nommé cardinal en 1622 et devient principal ministre d'État de Louis XIII en 1624. Il reste en fonction jusqu'à sa mort en 1642, date à laquelle le cardinal Mazarin lui succède. La fonction exercée par Richelieu auprès de Louis XIII est souvent désignée par l'expression de Premier ministre, bien que le titre ne soit utilisé à l'époque que de façon officieuse pour désigner le ministre principal du roi dont l'action englobe aussi bien des dimensions politiques, diplomatiques, militaires et coloniales que culturelles et religieuses. Réputé pour son habileté, voire pour son caractère jugé retors, souvent critiqué pour sa fermeté intransigeante, il rénove la vision de la raison d'État et en fait la clé de voûte de ses méthodes de gouvernement et de sa conception de la diplomatie et de la politique. En lutte à l'extérieur contre les Habsbourg et à l'intérieur contre la noblesse et les protestants, il réprime sévèrement tant les duels meurtriers que les révoltes antifiscales paysannes. Il s'illustre également dans les affaires demeurées fameuses, telles l'affaire des démons de Loudun. Richelieu est considéré comme l'un des fondateurs majeurs de l'État moderne en France. Son action est un long combat pour un renforcement du pouvoir royal. Par son action, la monarchie s'affirme sous une nouvelle forme qui sera plus tard désignée par le terme d'absolutisme, et ce de manière triomphante sous le gouvernement personnel de Louis XIV, puis de manière plus apaisée sous celui du cardinal de Fleury.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Le Palais Enchanté est un opéra baroque du compositeur italien Luigi Rossi sur un livret de Giulio Rospigliosi, créé en 1642 à Rome. L'histoire s'inspire de l'Orlando Furioso de l'Arioste du début du XVIe siècle.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Février 1936, Adolf Hitler présente à la presse la Volkswagen, la voiture du peuple, conçue par Ferdinand Porsche. Une usine chargée de la fabriquer est construite en 1938 à Fallersleben en Basse-Saxe. Le 7 mars, c'est la remilitarisation de la Rhénanie en réaction alléguée à la ratification du pacte franco-soviétique. L'Allemagne installe des troupes en violation du traité de Versailles et du pacte de Locarno. Londres ne réagit pas. La France saisit la Société des Nations. Hitler propose à la France et à la Belgique l'ouverture de négociations en vue de conclure des pactes de non-agression de 25 ans garantis par le Royaume-Uni et l'Italie. Le 9 mars, le Royaume-Uni déconseille à la France toute action militaire en Rhénanie. Le 29 mars, ce sont les élections au Reichstag et un plébiscite en faveur d'Hitler. L'Allemagne rejette le plan de paix proposé par la France à la suite de l'occupation de la Rhénanie. Le 1er août, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin. Alors que se déroulent les Jeux, Hitler adresse un mémoire secret à Göring et au maréchal von Blomberg sur un plan de 4 ans qui fixe ses objectifs. Armée opérationnelle, économie capable de faire face à la guerre.
Les Jeux de Berlin de 1936, c'est la victoire de Jesse Owens sur Hitler. Les Jeux devaient être le triomphe du nazisme, le triomphe d'Hitler, le culte du corps arien, la suprématie de l'homme blanc. Et voilà qu'un sprinter noir arrive.
Owens, tout seul ! Metcalf revient ! Owens ! Owens, l'homme le plus vite du monde !
Tout ce qu'avait prévu Hitler pour magnifier la suprématie de la race aryenne va s'effondrer. Lu Song était un grand gars baraqué, blond, donc le prototype de l'Aryen, et Lu Song va se lier d'amitié avec Jesse Owens et il va lui faire remarquer qu'il prend mal ses marques et qu'il peut prendre un peu plus d'espace finalement pour sauter. Jesse Owens, à son essai, va régler ses marques et donc va battre celui qui l'avait conseillé. Une photo célèbre les montre enlacés tous les deux, célébrant l'amitié interraciale, ce qui était l'horreur pour Hitler. Et puis, bien sûr, ces 4 médailles d'or, qui sont un démenti profond, cinglant, désespérant pour Hitler, puisque un noir va gagner 4 médailles d'or, le record absolu, dans les épreuves majeures de l'athlétisme.
Le premier relais pour l'Amérique est assuré par Jesse Owens, l'homme le plus vite du monde.
Roosevelt, qui est président, ne le reçoit pas à la Maison-Blanche. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a quand même une ambiance raciale très lourde aux États-Unis, avec des lois en cours sur la ségrégation. Et Jesse Owens, eh bien, il reste un noir pour beaucoup d'Américains. Et donc, il ne peut pas être un héros. Alors, à la fois, Jesse Owens a triomphé d'Hitler, mais en même temps, il n'a pas été célébré pour autant dans son pays parce que, eh bien, un noir ne pouvait pas rentrer à la Maison-Blanche en 1936.
En mai 1936, Georgia White enregistre Trouble in Mind, une chanson reprise par Nina Simone.
We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone.
Thank you.
Georgia White, 1903-1980, est une chanteuse de blues américaine née à Sandersville, en Géorgie, en 1903 et décédée en 1980. Dans les années 20, Georgia White travaille à Chicago où elle chante dans les clubs. À part une face enregistrée en 1930 pour l'orchestre de Jimmy Noon, sa carrière discographique se déroule réellement de 1935 au début des années 40. Elle enregistre de nombreuses faces pour le label Decca Records. Ses chansons sont souvent dans le genre appelé aux États-Unis risqué, c'est-à-dire avec des paroles grivoises à double sens. Elle quitte le monde musical définitivement en 1959. Le 10 décembre 1936, le roi Édouard VIII a abdiqué pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée. Cette décision a conduit à une crise constitutionnelle et à la succession de son frère George VI qui a pris le trône.
Après la leçon de natation, Elizabeth rentre chez elle.
Elizabeth se préparait à prendre des notes sur cette leçon de natation quand elle entend jouer à l'extérieur les notes de God Save the King. Alors elle va demander au majordome : que se passe-t-il ? Le majordome lui répond : votre oncle a abdiqué et votre père est roi. God Save the King.
La musique anglaise de 1936 a été marquée par des chansons emblématiques qui ont marqué les ondes et les salles de concert. Parmi les plus populaires, on trouve « A Fine Romance » de Fred Astaire, « Crossroad Blues » de Robert Johnson et « Pennies from Heaven » de Bing Crosby. Ces titres ont non seulement connu un grand succès, mais ont également été repris par de nombreux artistes au fil des ans, continuant à influencer la musique populaire. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. À très bientôt.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.